Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Danseman, vous allez bien?
Bonjour Valérie, ouais, on est rentré à la maison, je suis un peu déçu,
voilà.
J'aimais bien.
On reviendra
en
au studio, on va alterner, oh, on va alterner, bien, voilà. On est avec vous pour le 10h midi, on a pris un peu de retard, enfin Patrick Roger et Cécile Dominique nous ont rendu un petit peu tard, mais c'est pas grave. Beaucoup de choses aujourd'hui, on va revenir sur les manifestations hier de soutien à Adama Traoré, on en parlera à 11h et puis à 11h moins 10, j'aurai l'avocat de deux des trois gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré. Il va nous expliquer un petit peu mieux ce dossier et en quoi cette nouvelle, même pas expertise médicale, mais en tout cas ce nouvel avis médical qui a été réalisé en 48 heures n'est pas forcément extrêmement crédible. À 10h30, on sera avec Rémi Pernelet et avec le nouveau patron de la chaîne Téléfoot, hein, cet accord pour le moins très important avec Mediapro, entre Mediapro et TF1 pour diffuser les matchs de la Ligue. Et puis Michel Chevalet sera avec nous, le mythique Michel Chevalet, journaliste scientifique.
On parlera avec lui
comment ça marche. On va parler de SpaceX. Alors commençons tout de suite avec les audiences rapidement. Ben, hier, sans grande surprise, hein, c'est Harry Potter qui est arrivé en tête avec 6 462 000 téléspectateurs, 28,3% de part d'audience. Le rouleau compresseur Harry Potter, dernier épisode, c'était Harry Potter et les reliques de la mort. Ça a très très bien fonctionné. Rediff pour France 3 de Tandem, 3 525 8000 téléspectateurs, et M6 qui est devant France 2 hier avec Ne le dis à personne. C'est une très bonne audience pour M6 qui devance France 2 et qui a devancé le documentaire Féminicide que vous avez regardé. Yamina, bonjour Yamina.
Oui, bonjour Valérie, merci de me prendre à l'antenne. Oui, j'ai bien regardé et j'avoue que j'en suis sortie bouleversée. Oui. Bouleversée par la force des témoignages, mais aussi des témoignages d'ailleurs, mais des histoires aussi, des différentes histoires racontées. Hein, je crois, enfin, des cinq femmes concernées en l'occurrence, je crois Laetitia en premier, Marie-Alice la dernière Smith, aussi. Hein. Oui. Et donc il y a des profils assez différents qui nous dit que ça peut toucher tout le monde en réalité. Voilà.
Absolument.
Donc que ça peut toucher tout le monde et que le processus est loin d'être un passage à l'acte direct, mais il y a vraiment. Il y a vraiment un processus psychologique qui doit nous questionner. Oui. Pour venir en aide à ces femmes, à toutes ces femmes en l'occurrence.
Oui. On voit bien l'impuissance.
C'est incroyable, quoi.
Oui. Mais on voit bien l'impuissance des familles. On voit bien aussi que ces femmes, souvent, elles cachent complètement. C'est remarquable documentaire.
Absolument, vraiment. Remarquable
vraiment
enquête et documentaire.
Très, remarquable
oui.
enquête qui est à lire dans Le Monde. Hein. Je précise qu'il y a un supplément
absolument.
Du Monde qui est très, très bien fait, qui fait une vingtaine de pages, moi, que j'ai lu et qui est glaçant. Vous l'avez dit, avec cette emprise et surtout ce qu'ils expliquent aussi, c'est que le mot crime passionnel n'a pas de sens, c'est de l'emprise d'un homme, c'était crime de propriété, et bravo au service public d'avoir eu le courage de programmer ça à une heure de grande écoute, même si effectivement ça n'a pas fait forcément beaucoup d'audience, hein, 1 902 000 téléspectateurs, 7,9% de part d'audience, mais c'est toujours ça et c'était effectivement, regardez-le en replay si vous ne l'avez pas vu, c'est extrêmement fort. Hein. Vous avez raison, Yamina.
Je vais vous en passer un extrait tout à l'heure qui va vous montrer à quel point la force des témoignages. Et puis surtout, je ne sais pas si notre auditrice est d'accord, c'est qu'on a du mal à y croire tellement les choses sont dingues. En fait, ce que vivent ces femmes, on a du mal à y croire.
On rappelle le numéro, hein, le 3919 Solidarité Femmes, qui est le numéro des femmes pour alerter. Mais ce n'est pas toujours facile de faire cette démarche. On l'a vu hier dans le documentaire. Elles ont parfois du mal à se sortir de cela elles-mêmes. C'est une sorte de syndrome de Stockholm. En tout cas, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Merci Yamina de votre appel. Le zapping de Gilles, tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, l'instant zapping.
Évidemment, pour démarrer, c'est l'actualité dont tout le monde parle, la manifestation interdite à l'appel de la famille d'Adama Traoré pour que justice soit faite. Une manifestation qui va dégénérer. Pourtant, tout avait bien commencé.
En milieu de soirée au nord de Paris, la fumée des incendies se mêle à celle des gaz lacrymogènes. Les policiers mènent la charge et tentent de disperser les manifestants. Des fortes tensions pour un rassemblement qui avait pourtant commencé dans le calme.
Enfin, tout avait bien commencé, c'était une manifestation interdite, je le rappelle.
Mais elle a commencé dans un certain
calme.
Oui,
dans le calme, absolument.
Pour la sœur d'Adama Traoré et organisatrice de la manifestation, il n'y a qu'un seul responsable de ce chaos, c'est le préfet de police de Paris, Didier Lallemand.
Ça fait 4 ans que nous, le comité Adama, nous faisons des rassemblements, 4 ans que tous nos rassemblements se passent pacifiquement, que les rassemblements se passent bien. Aujourd'hui, le seul responsable, c'est Monsieur Lallemand. Qui va donner cette interdiction et qui va mettre en face de certaines personnes, des policiers. Donc c'est le seul responsable.
Alors de son côté, Laetitia Valla, qui est la porte-parole de la préfecture de Paris, en direct sur BFM à minuit, minimisait les choses. Vous allez voir que pour elle, tout va bien. C'est quand même un son assez hallucinant, Valérie.
Des tensions que je qualifierais de sporadiques puisque la manifestation était à proximité du tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas eu d'intrusion, il n'y a pas eu de dégradation sur le tribunal judiciaire de Paris. On a eu un feu sur un poteau en bas du périphérique sur lequel nous sommes intervenus, les pompiers protégés par les policiers. Un petit blocage du périphérique sur lequel nos braves M sont également intervenus. Et les policiers, les forces de l'ordre interviennent au cas par cas sur les infractions qui peuvent être constatées. Mais la situation... est sous contrôle.
Voilà, il n'y avait pas grand-chose, donc. Pour Rodolf Bousselu, que vous allez recevoir tout à l'heure, Valérie, l'avocat des deux des trois policiers impliqués dans l'affaire Traoré, cette manifestation n'a lieu que parce que la famille Traoré ne veut pas accepter la justice.
J'ai l'impression qu'en fait, la famille Traoré, qui n'a pas la vérité judiciaire qu'elle souhaiterait et qui n'a pas le dossier qu'elle imagine, eh bien, a décidé de déplacer cette expertise, ce dossier sur le plan médiatique et d'essayer de trouver un avantage sur le plan médiatique qu'elle n'obtient pas sur le plan judiciaire.
Voilà, et je rappelle que vous l'aurez tout à l'heure à 10h45 pour une interview. Hier, France 2 diffusait donc, on vient d'en parler avec notre auditrice, un documentaire glaçant sur les féminicides, des témoignages qui font comme ceux, des témoignages comme ceux des proches de Laetitia Schmidt, tuée par son mari, mari qui contrôlait tout, qui contrôlait ses moindres gestes. Écoutez ce témoignage.
Tous les trajets, c'était au téléphone avec lui, en fait. Et elle devait raccrocher une fois dans le bureau.
Elle lui imprimait la preuve qu'il y avait ce jour-là une réunion à tel endroit, en fait. Il lui avait jeté tous ses anciens sous-vêtements et il lui en avait racheté d'autres.
Elle a dit que c'est interdit. Je n'ai pas le droit de mettre de vernis à part quand il est avec moi.
Du col roulé jusqu'en bas aux chaussures, en fait. Il fallait que toutes les parties de son corps soient cachées.
Incroyable, hein.
Ouais, le retour... c'est glaçant et vraiment, lisez-le dans le supplément du Monde ou regardez le documentaire.
Oui, le retour de Didier Raoul Valérie dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il fait passer un message. Ce message, vous savez ce qu'il est, c'est qu'il est un génie incompris.
Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. Vous savez, j'ai passé ma vie à être envié, jalousé. Faut pas croire que c'est l'élite qui me critique, c'est les gens qui sont pas à mon niveau qui me critiquent, c'est ceux-là.
Allez, un petit sourire hier soir. Cyril Lignac a été victime en plein direct d'une coupure d'électricité. Alors, vous imaginez la séquence, une séquence qui pourra aller dans nos futurs bêtisiers.
Dans tout bêtisier, oui.
Au moment où je vous parle, eh ben, on a perdu le signal avec Cyril Lignac. Alors, le pire qui puisse vous arriver, c'est que ce soit moi qui vous donne la recette de ce soir.
En fait, tout a sauté chez moi, j'ai pas d'électricité, donc je peux pas allumer la casserole.
D'accord. Alors, tu peux pas allumer la casserole.
Mais est-ce que c'est toi qui cuisine ce soir?
Ouais. Est-ce que tu m'entends, voilà. Cyril?
Donc, nous sommes à direct sur M6.
On est toujours en direct, il n'y a pas de problème.
On va essayer de continuer la recette, donc.
Mais bien sûr.
Ouais, c'était assez rigolo. On reçoit demain Jérôme Antenay, on pourra lui en parler.
Oui, on pourra lui en reparler. On est en ligne avec Michel Chevalet. Bonjour Michel Chevalet.
Bonjour cher ami, ça fait longtemps. Hein.
Ça fait très longtemps, mais nous sommes des vétérans de l'info, journaliste scientifique. Comment ça marche, Michel Chevalet? Voilà, vous êtes également consultant pour CNews. On avait envie de vous entendre ce matin. Ça fait effectivement très longtemps qu'on ne vous a pas eu, nous, en tout cas, sur Sud Radio. Oui. Et de revenir sur le... Déjà, vous allez bien? Vous avez traversé le Covid sans encombre?
Oui. Confinés, mais comme vous, on a l'avantage d'être un peu à la campagne, c'est-à-dire en grande banlieue, parmi les arbres, avec un jardin, un pavillon, donc c'était pas très contraignant tout de même, mais il faisait beau, donc c'était sympa.
Alors, ce week-end, on a pu assister au lancement de SpaceX et en voulant savoir un petit peu plus sur cette conquête spatiale. Moi, je dois vous avouer que je n'ai pas compris le battage qu'il y a eu autour de ce lancement de fusée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Alors, non, c'est vrai, mais même en tant que journaliste, en tant que spécialiste, c'est vrai que j'ai été surpris, si vous voulez, par l'importance médiatique, l'emballement médiatique à faire des parce que maintenant il y a les chaînes d'infos continues, il faut meubler, mais c'est parce que l'actualité était retombée, si vous voulez, à côté. Il y a un premier phénomène, on va y revenir, c'est-à-dire l'intérêt que ça portait. Et puis le deuxième, c'est que vous savez, dans notre métier, des fois un petit fait divers va meubler toute l'actualité parce que, entre nous, il faut diffuser quelque chose, et quand il n'y a rien, on grossit démesurément. Et donc après, l'actualité très forte du coronavirus, qui retombe fort heureusement, les rédactions ont dit « on va faire des émissions spéciales », et c'était parti, et la machine s'est emballée. Alors on revient sur le fait. Alors, est-ce que c'est un grand événement ? Non. Mais c'est un bon événement. Non, mais vous voyez, attends, la Lune, oui, c'était un événement énorme.
Ouais.
Après, il y a eu d'autres trucs. Bon, l'arrivée sur Mars, les premiers robots sur Mars, ça c'était génial. Ouais. Mars en direct dans votre salle à manger, c'était géant. Oui, j'ai fait des grands directs avec Claire Roy depuis la navette spatiale, depuis la station. Ouais.
Mais vous avez qu'est-ce que ça vous a...
Non, c'est vrai. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est la portée économico-politique. Techniquement, de vous à moi, la fusée, elle fonctionne depuis près de 10 ans maintenant. Mais c'est une très bonne fusée qui a l'avantage d'être beaucoup moins chère, disons deux fois moins chère qu'Ariane, pour vous situer les choses. Voilà.
Ouais,
et donc
ouais.
Ça, c'est le pari d'Elon Musk. Il fait du low cost. OK. Et elle marche très bien. Il a fait une cabine spatiale parce qu'il y avait un appel d'offres. Il a répondu à un appel d'offres. Bon, ça, tout de même, il a touché 3 milliards pour faire ça. Et il a fait une cabine par rapport à Apollo. Tout de même, Apollo, elle a été conçue dans les années 65-70. Donc, vous voyez, il y a un progrès technologique. Donc, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus confortable, plus facilement pilotable, etc. OK. Ça, c'est le progrès logique, normal. Et ils ont desservi la station spatiale, mais Dragon, c'est dérivé d'un véhicule qui transporte des marchandises. Et donc, c'est la routine des rendez-vous automatiques. Ça marche très bien, et du côté des Russes, voyez. Donc, j'essaie de vous situer.
Il n'y avait pas d'enjeu particulier, je veux dire, cette station où ils se sont rendus.
Sauf que
c'est la première fois que c'était il y avait des humains déjà.
Non, Valérie, bien sûr. Oui. La cabine n'avait jamais volé. Elle avait volé en solo, toute seule, mais elle n'avait jamais volé avec des hommes. Mais dès que vous avez des hommes à bord, évidemment, il y a
un enjeu. Il y a un enjeu différent.
Évidemment. Voilà. C'est simple. Voilà, je vous ai situé les choses. Alors, ça n'enlève rien. Alors, par contre, à la réussite, et ça n'enlève rien à la suite des opérations, parce que c'est ça qu'il faut voir. Et donc, l'enjeu, c'est l'enjeu politique. C'est-à-dire le retour, enfin, à l'espace des Américains qui, disons, quasiment pendant 10 ans, on nous voyait, ne savait pas trop où ils allaient, il n'y avait plus de volonté politique. Là, il y en a une, il faut qu'on reparte dans l'espace, il faut qu'on soit indépendant, et puis on surveille du coin de l'œil les Russes qui vont venir, et puis les Chinois, voilà. C'est la portée. Donc c'est une très grosse portée économique, si vous voulez, et politique. Oui.
Et puis surtout, on privatise un peu le ciel jusqu'ici. Il n'y avait que les nations qui envoyaient.
Oui.
Là, c'est un opérateur privé qui s'octroie l'espace.
Mais vous avez raison. Avant, c'était le fait des États. Parce qu'il y avait, il fallait avoir beaucoup d'argent. Et puis surtout, il y avait une volonté politique. C'était la guerre de l'espace. Et donc... Il arrive maintenant la grosse NASA qui 40 000 personnes, elle était, j'oserais dire, un peu fossilisée. Donc, en un mot, on parle vulgairement, elle roupillait, elle dormait sur ses succès. Mmh. Eh bien, il a fallu le priver, l'ouverture au privé, parce qu'il y avait des gens qui ont des milliards, parce que c'est ça,
ouais. des milliards, ouais.
Et qui voient l'intérêt, si vous voulez, pour eux, de rafler des contrats, mais qui voient aussi l'intérêt, les actions d'Elon Musk, parce qu'il fait de l'espace, et donc ça lui coûte très cher, fait monter ses actions. Vous voyez le coup. Et comme ça, il peut vendre des voitures Tesla.
Non, mais c'est une grosse opération de com. La prochaine bataille de l'espace, c'est quoi? C'est Mars?
Alors, la Lune. Attendez, Mars, je crois que tous les deux, on ne le verra pas, malheureusement. C'est très compliqué, très compliqué. Puis il faut un truc international. Et là, maintenant, sur le plan international, de faire travailler avec les Russes ou les Chinois, je vois pas ça. Il y a une... Valérie, ne perdez pas de vue que derrière tout ça, il y a des connotations politiques et surtout, il y a les militaires qui sont derrière tout cela. Parce qu'on assiste actuellement à une remilitarisation de l'espace du côté des Russes, du côté des Chinois. Et l'Amérique ne pouvait pas être en reste. Hein. Notamment, vous verrez, il y a les missiles hypersoniques qui sont en train de se développer, c'est-à-dire quasiment indétectables au radar. Il faut entretenir un savoir-faire, il faut entretenir une industrie, et donc des opérations spatiales, comment on va? Bon, on va aller autour de la Lune, c'est sûr, maintenant on a la cabine, on a la fusée, on va se poser sur la Lune, on ne sait pas trop ce qu'on va y faire, moi je ne vois pas trop l'intérêt scientifique, les robots font mieux leur boulot, mais enfin, c'est un vecteur, ça fait tourner l'industrie, ça entretient un savoir-faire. Juste une petite parenthèse, Valérie, on n'est pas des débutants. Pourquoi y a-t-il des combats un peu larvés partout sur la planète pour affirmer son pouvoir politique? Mais également, ça permet d'entraîner en permanence les armées, non plus avec des joysticks et des Game Boy, mais dans la réalité, et ça permet de faire tourner une industrie et un savoir-faire.
Moi, je voulais savoir, aller sur la Lune.
Vous m'avez pris de vitesse.
Vous iriez si demain il y avait un vol commercial possible.
Ouais. Mais ça va venir, justement, vous avez raison. Ouais. C'est ce qu'a fait Elon Musk et a laissé les coups. Elon Musk, lui, veut développer l'accès à l'espace. Bon, des fortunés. Il y a des gens qui sont capables de mettre des 100 000 dollars pour aller faire des calipettes là-haut. Hein. Mais moi, j'irais. J'ai mis dans mon livre, j'ai failli être sélectionné. C'est le président François Mitterrand qui un jour ou une réunion, je faisais un direct avec Michel Tonini, et puis Mitterrand était très fatigué, c'était à l'Elysée, et il avait du temps de parole, et puis moi j'étais là pour TF1, et puis à la fin il se lève au bout de 5 minutes alors qu'il avait 10 minutes d'antenne, il vient vers moi, puis il me dit, prenez ma place monsieur Chevalet, monsieur le président, non, pas votre fauteuil, mais si, prenez ma place, asseyez-vous, vous le connaissez, je le connais bien, Michel Tonini, c'est un ami, allez-y, et donc je fais mon direct, je reviens vers lui, il y avait Hubert Curien, ministre de la Recherche, d'Alès, le patron du CNED, et Mitterrand dit, monsieur le ministre, ils sont très révérencieux, très officiels, est-ce que notre jeune ami pour aller dans l'espace. Alors Hubert Curien dit oui, bon, je pense, etc. Bon, ça nous coûtera combien? 80 millions de dollars. Bon, faites le nécessaire, monsieur le ministre. Boum.
Ah oui.
Boum.
Et alors?
Mais oui, mais 3 mois après, le président renonçait. Voilà. Et donc, je suis resté au sol et je vous ai fait économiser 80 millions de dollars.
c'est pas mal.
C'est trop tard maintenant. On a reçu la semaine dernière Evelyne Delia et je suis tombé sur un extrait de la maison de TF1 où vous lui expliquiez que dans les maisons, une hotte pour la cuisine allait arriver dans les maisons. Dans tout ce que vous avez vu dans toute votre carrière, quelle est l'invention qui vous a le plus bluffé? Bon, j'imagine que c'est pas la hotte de la cuisine, mais quelle invention a été géniale?
Non, mais entre nous, juste revenons en arrière, vous avez raison, la maison de TF1, avec Nicolas le jardinier et autres, bricolage, l'idée médiatique est excellente. Bon, maintenant, ça a donné les pour la 5, qui est très bonne. Mais, voilà. Qu'est-ce qui m'a le plus bluffé dans toute ma carrière? J'en ai vu passer.
Qu'est-ce qui a le plus bouleversé nos vies? Qu'est-ce qui a le plus bouleversé Internet?
La réponse est ce qui a le plus bouleversé notre vie, c'est l'arrivée de tout ce qu'on appelle l'informatique, c'est-à-dire la numérisation de la société. Bien sûr. Ce qui a le plus bouleversé nos sociétés, moi je dirais c'est l'invention du feu, historiquement. Ben oui, sans le feu, etc., on n'aura pas pu faire les industries, etc. Et puis ça a été l'électricité, le pétrole et l'électricité.
Ouais. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous lisez? Vous continuez à vous intéresser, à chercher pourquoi ça marche? Comment ça marche?
vous avez raison. Ah ben moi, je reste toujours très, très, très actif, parce que j'ai la santé pour ça, et puis parce que ça me stimule mon cerveau. Donc alors, je résume, j'ai été récupéré après TF1, j'ai été récupéré, oui. J'ai travaillé, je fais des magazines sur la 5, j'ai fait des livres. J'étais récupéré par Bolloré, que je connaissais, qui m'a appelé, puis il m'a dit, voilà, j'ai besoin, donne-moi un coup de main, j'ai une petite chaîne qui marche pas très bien, qui est pas très forte, viens me donner, voilà. Donc j'ai, puis j'avais dit, c'était Thuillier qui était le patron de ça, et tombé l'Airbus, vous savez, le Rio Paris, personne n'avait de contact, Thierry m'appelle, me dit, oh, Michel, viens en plateau, non, je m'oublie, mais si, viens. Bon. Et puis, on a tenu, au lieu de tenir l'antenne 10 minutes, vous savez ce que c'est que l'info continue, c'était toute la journée. Ouais, et Thierry me dit, bon, bah, t'as démarré maintenant, tu restes avec moi jusqu'à temps qu'on retrouve l'avion. Bon, ça a mis 2 ans. Et j'ai repiqué à l'info. C'est excitant, c'est grisant. Ça vous oblige à bosser, à réfléchir. Donc, je suis le consultant de CNews. Ça fait de grand plaisir. C'est sympa. Et puis, bah, à côté de ça, j'ai une petite structure de production où moi, j'agis comme conseiller. Par exemple, je travaille beaucoup dans le problème de la transition énergétique. Je fais des conférences parce que j'y crois beaucoup. Et notamment, j'ai fait, c'était Borloo qui m'avait demandé ça, une exposition itinérante d'une maison en 2-3 modules à l'intérieur qui est vivante, qui est meublée, et les gens voient comment elle marche, comment elle fonctionne, pour comprendre ce que c'est que les isolations, comment fonctionnent les panneaux solaires, comment fonctionnent les pompes à chaleur, etc. Donc ça, c'est mon autre aspect, c'est de concevoir des expositions pour le grand public.
On peut dire quel âge vous avez, Michel Chevalet?
À votre avis.
Eh bien, je viens de regarder sur Wikipédia, vous avez 81 ans, vous allez avoir 81 ans en août prochain, le 30 août prochain. Bah écoutez, je trouve que Françoise Closet et vous, vous êtes des exemples de longévité, de dynamisme.
Drucker.
Et Drucker aussi, vrai. Absolument. Bah, mais il est un tout petit peu plus jeune que vous.
On a fait le service militaire quasiment ensemble avec Michel.
Ah ouais. Mais en tout cas, ça montre que voilà, il y en a sous le pied de ce qu'on appelle les seniors aujourd'hui. Michel Chevalet, merci d'avoir été avec nous. Puis vous me rassurez, parce que moi j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça marrant la fusée, mais je me suis dit quel est l'intérêt? On en a fait décoller des tonnes de fusées. Mais j'ai compris comment ça marchait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Chevalet, et portez-vous bien. Nous on se retrouve dans un tout petit instant pour parler de cette nouvelle chaîne. Téléfoot, nouvelle chaîne payante qui arrive, et puis de cet accord entre TF1 et Mediapro pour les matchs de la Ligue 1. A tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, à 11h-10, je recevrai Rodolphe Bosselu, l'avocat des gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré. Il va nous expliquer son point de vue. Et puis, on va parler foot maintenant, puisque... Alors, Julien Bergeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du groupe Mediapro. Rémi Pernelet est là également avec nous. Cet accord de 800 millions d'euros, c'est le prix qui a été payé par Mediapro. Donc, c'est un groupe espagnol pour être le principal diffuseur de la Ligue 1 pendant 4 ans. Et on a appris hier que vous aviez conclu un accord avec TF1, une alliance, et que vous alliez lancer une chaîne Téléfoot pour diffuser ces matchs. Pardon, ce sera une chaîne payante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet accord? Il y a eu des discussions avec Canal+ qui n'ont pas abouti. Finalement, c'est TF1 avec qui vous avez réussi à conclure cet accord.
Tout à fait. Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le lancement de notre chaîne sous la marque Téléfoot à partir du mois d'août. L'accord avec TF1, il repose sur 3 piliers. Un accord pour la licence de la marque Téléfoot, tout d'abord. Le deuxième pilier, un accord sur la production de contenu, puisque TF1 va produire pour nous des émissions, notamment l'émission du dimanche matin pour la Ligue 1, mais aussi des émissions avec toute la base d'archives dont ils disposent depuis 40 ans. Ils vont fabriquer du téléfoot vintage avec les meilleurs moments de la vie de certains clubs, des spéciales dédiées à des certains joueurs ou à des grands entraîneurs. Et puis le troisième aspect, c'est le fait que le duo de commentateurs préférés des Français, Vicente Lizarazu et Grégoire Margoton, va officier sur notre antenne le dimanche soir pour le meilleur de la Ligue 1, pour les plus belles affiches de Ligue 1 et pour le plus grand plaisir de nos abonnés.
Donc il y aura quoi sur cette chaîne? Il y aura des matchs, vous venez de le dire, et des émissions autour du foot. Elle va diffuser toute la journée?
Oui, ce sera une chaîne qui sera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va proposer donc plus de 80% des matchs de Ligue 1. Donc c'est une quantité de matchs presque jamais vue jusqu'à présent. Nous allons avoir une antenne qui va être en direct du lundi au dimanche, consacré essentiellement au football, uniquement au football, avec l'ouverture de chaque journée de championnat en direct le vendredi soir, avec le grand match, la grande affiche du vendredi soir. Et nous allons enchaîner ensuite tout le week-end avec des matchs le samedi, mais également aussi un super dimanche, puisque certains dimanches, nous prendrons l'antenne dès 10h du matin avec nos magazines autour de Téléfoot, mais aussi nous enchaînerons ensuite parfois jusqu'à plusieurs matchs dans l'après-midi, puisque nous aurons un match à 13h, 4 matchs à 15h. Certains dimanches, nous aurons également un match à 17h. Ensuite, notre grand magazine d'avant-soirée. Et pour conclure chaque journée, le grand match, le grand choc de l'affiche du dimanche à 21h. Et le reste de la semaine, nous aurons une couverture dédiée au football et au club en particulier, puisque la vocation de Téléfoot, c'est d'aller au cœur des clubs et de montrer des insides, des images qui n'ont pas été vues ou des accès que le public n'a pas, grâce au partenariat que nous avons noué avec les clubs et au fait que nous serons en direct depuis les clubs toute la semaine, même quand il n'y a pas de match.
Tout ça pour 25 euros par mois, vous avez annoncé le prix hier, oui. Rémi Pernelet.
Oui, écoutez, c'est une belle opération de communication, hein, puisque grâce à cet accord avec TF1, on parle de la chaîne Téléfoot, dont le nom est simple à retenir dès maintenant. Alors, il y a un point quand même très important qu'on aimerait connaître, c'est... comment on va pouvoir la voir, cette chaîne? C'est-à-dire qu'elle va être présente sur des plateformes. On devra payer un abonnement annuel. On pourra acheter des matchs à l'unité. Ce sera sur Orange, sur SFR, sur Numéricable, chez Bouygues. Est-ce que ce sera sur Canal? Enfin, voilà. Toutes les questions que je pense les auditeurs et les téléspectateurs se posent.
Donc, pour tous ces accès et toutes les offres, nous allons communiquer bien évidemment très prochainement pour que le public sache exactement où trouver la chaîne et à quel endroit et sous quelle formule. Nous sommes en train de finaliser les accords et les négociations que nous avons avec toutes les parties prenantes. La stratégie pour nous, c'est d'être le plus largement accessible sur toutes les plateformes, sur tous les distributeurs, mais également aussi sur toutes les devices, que ce soit sur les télévisions connectées ou les box ou les set-top box. Nous voulons rendre la chaîne le plus largement accessible et il y aura plusieurs formules pour s'abonner. Nous allons communiquer tout cela dans les prochaines semaines, bien
parce
évidemment.
Parce que pour l'instant, c'est pas encore financé à l'heure où vous parlez. Enfin, pas financé, pardon. C'est pas encore tout à fait précisé. Vous êtes en négociation avec les différents opérateurs, c'est ça?
C'est en cours, il y a certains accords qui ont été passés, il y en a d'autres qui sont en cours de finalisation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire les choses.
Il y a une question qui se pose, c'est sur le prix évidemment, hein, puisque 25 euros, ça c'est Téléfoot. Je rappelle que pour voir du foot aujourd'hui, il fallait payer soit 20 euros, soit 35 euros pour avoir Canal, 15 euros pour beIN Sports, c'est-à-dire qu'on est au minimum entre 60 et 75 euros par mois. Il faut même rajouter Eurosport, vous connaissez bien Eurosport puisque vous l'avez dirigé, qui diffusait la Coupe de France. C'est quand même extrêmement cher pour arriver à voir aussi bien la Ligue 1 que la Ligue des Champions, parce que l'autre enjeu, c'est quand même la Ligue des Champions, et ça, c'est pas chez vous pour l'instant.
Non, mais si vous regardez aujourd'hui les offres pour avoir l'équivalent de la proposition que nous allons avoir, qui est d'avoir 80% des matchs de Ligue 1, dont les meilleures affiches, ainsi que 80% des matchs de Ligue 2, aujourd'hui, si vous voulez réunir tout cela, ça vous coûte minimum hors promotion 49,90 €, parce que vous devez vous abonner à des niveaux de service, à des engagements, à des associations avec des abonnements qui font que vous ne pouvez pas vous abonner au final pour moins de 49,90 € une fois que les périodes de promotion sont passées. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'avec le prix de 25 € pour un abonnement uniquement à ce pourquoi vous abonnez, à savoir la promesse très claire de notre chaîne qui est une chaîne de foot et uniquement de foot, c'est pour ça qu'on pense que c'est un abonnement qui est finalement bon marché et qui fait du sens par rapport au fait qu'aujourd'hui aussi vous n'avez plus la même consommation que la télévision qu'auparavant, où vous aviez accès à des offres avec plus de 200 chaînes et que vous n'en consommiez peut-être qu'une ou deux.
Ouais, aujourd'hui, le public, vous avez quand même besoin de... par rapport à ça. Vous avez quand même besoin de 3 millions à 3 millions et demi de d'abonnés, si j'ai bien compris, pour équilibrer le budget. Vous pensez que c'est possible? Je rappelle que Canal est à entre 4, au-dessus de 4 millions, mais avec des années de marketing. Donc, comment c'est jouable économiquement pour vous?
En fait, on a vraiment réfléchi à la question. On a regardé aujourd'hui le marché tel qu'il est organisé. Il est assez fragmenté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, la promesse, c'est de réunir dans un seul et même endroit une offre vraiment très fortes, qui permettent finalement de défragmenter le marché et de réunir les fans autour de leur passion. Et quand on regarde aujourd'hui la Ligue 1 et la Ligue 2, on sait qu'aujourd'hui, c'est un feuilleton qui passionne près de 15 millions de personnes en France. Donc, il n'y a pas aujourd'hui 15 millions d'abonnés à une offre de télévision payante autour du football. Donc, le pari, effectivement, c'est de toucher et d'avoir à terme 3 millions et demi d'abonnés à cette offre. Mais quand on part effectivement du nombre de personnes qui sont fans de foot et qui ont un intérêt pour le feuilleton de la Ligue 1 ou le feuilleton de la Ligue 2, on pense que c'est tout à fait réalisable.
Ah, mais Bein Sports a quand même été un échec. Ah. Pardon Gilles, excusez-moi juste pour rebondir. Bein Sports a été un échec. Ça ne vous effraie pas?
Écoutez, moi je ne dirais pas que Bein Sports a été un échec. Au contraire, moi je pense que Bein Sports a été une très belle réussite commerciale puisqu'ils ont atteint jusqu'à un certain point 3,5 millions d'abonnés eux-mêmes. Donc non, je ne suis pas d'accord avec votre analyse sur le fait que Bein Sports a été un échec, au contraire.
Économiquement, vous n'échapperez pas à ma question. Oui. Est-ce qu'on va être sur les box SFR? On sait que le groupe Altice avait fait une vraie politique avec les chaînes de RMC Sport et que bien ils ont perdu beaucoup de choses avec cet accord. Est-ce que ils vont être fair play? Est-ce que vous pensez avoir un accord avec le groupe Altice?
Écoutez, comme je vous l'ai dit, on va faire des annonces prochainement. Donc,
ça veut dire que vous ne l'avez pas encore.
J'écoute, je n'ai pas dit ça. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on communiquera effectivement le moment venu sur les accès, les accords qu'on a pu passer. On a communiqué hier sur la naissance de notre chaîne sous la marque Téléfoot, nos talents, le duo Margoton-Lizarazu. Nous allons communiquer dans les prochaines semaines. On va faire des annonces pendant tout le mois de juin et même au cours du mois de juillet pour répondre à toutes ces questions justement.
Je voudrais vous demander deux choses. D'abord, est-ce que il y aura plusieurs canaux Téléfoot comme il y avait pour RMC ou pour Bein pour pouvoir suivre, par exemple, le dimanche à 15h, plusieurs matchs en temps réel? Et puis, deuxième chose, est-ce qu'il y aura du foot féminin sur Téléfoot?
Alors, la première réponse à votre question, oui, on aura des canaux bonus qui seront proposés en même temps que notre chaîne, entre guillemets, principale, justement pour pouvoir voir les matchs en intégralité. Nous aurons un multiplex qui sera proposé sur notre chaîne principale, notamment le dimanche à 15h pour les matchs de Ligue 1. Nous aurons aussi un multiplex le samedi soir à 19h pour la Ligue 2. Mais nous aurons également tous les matchs en intégralité de manière, entre guillemets, individuelle pour que si vous êtes un fan d'un club en particulier et que vous ne voulez pas voir une autre équipe à part l'équipe en face de laquelle il est en train de jouer, bah, vous pourrez voir ce match en intégralité. Et nous allons aussi développer ça pour la saison 2, puisqu'en saison 2, nous avons tous les matchs d'Europa League pour lesquels nous avons fait l'acquisition. Et donc, nous aurons énormément de matchs aussi qui seront disponibles et qui seront proposés aux fans sur ces canaux bonus. Pour l'instant, nous n'avons pas de droit... répondre à la question sur le football féminin. Pour l'instant, nous n'avons pas de droit concernant le football féminin, mais bien évidemment, c'est quelque chose que nous regardons avec grande attention puisque c'est pour nous une discipline qui est très importante et nous voulons aussi toucher cette discipline. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas eu d'opportunité de faire l'acquisition de droits dans le football féminin, mais si nous avons l'opportunité, nous le ferons, oui.
Et une petite question encore sur la programmation, donc on sait que votre actionnaire est l'actionnaire chinois OHC. Il y a une case de diffusion de matchs qui est maintenant le dimanche à 13h. Ce qui est le prime time en Chine, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de matchs du PSG à 13h au lieu de 21h pour satisfaire le public et votre actionnaire chinois?
Alors, ça ne marche pas comme ça. En fait, si vous regardez, c'est la Ligue qui décide la programmation des matchs qui sont faits. L'année dernière, la Ligue a programmé effectivement un match du Paris Saint-Germain contre Nice, si je me souviens bien, à 13h, justement pour susciter l'intérêt et développer l'intérêt sur des pays asiatiques qui, avec le décalage horaire, sont dans des zones horaires qui sont de prime time pour eux. Donc effectivement, la Ligue va continuer dans cette voie, mais il y aura un certain équilibre aussi qui fera que vous aurez toujours les plus belles affiches du Paris Saint-Germain à 21h le dimanche soir, les Paris Saint-Germain OM, les Paris Saint-Germain Lyon, qui seront voilà,
les Paris Saint-Germain Dijon à 13h
le dimanche soir.
Paris Saint-Germain Dijon à 13h, dit Rémi.
Non, vous aurez pour l'instant aujourd'hui, ce qui est envisagé, c'est de continuer sur le même niveau d'exposition pour continuer ce qu'a fait la Ligue l'année dernière. Donc effectivement, il y aura peut-être quelques affiches avec le Paris Saint-Germain à 13h le dimanche, mais il y aura aussi beaucoup d'affiches du Paris Saint-Germain à ce moment-là, le dimanche soir à 21h.
Moi, je voulais vous demander, les abonnés de Canal+, ont été habitués à une certaine qualité de retransmission avec des caméras qui ont été inventées, comme la Spider ou d'autres moyens techniques sur les caméras derrière les buts. Est-ce que c'est vous qui allez réaliser et produire les matchs de la Ligue? Et est-ce que Téléfoot a dans l'envie et le groupe Média Pro d'amener des nouvelles façons de voir le foot?
Tout à fait. Le savoir-faire de Mediapro historique, c'est la production et la captation d'événements sportifs. C'est vraiment comme cela qu'a commencé à se distinguer le groupe Mediapro depuis de nombreuses années avec la production des matchs de Liga en Espagne, mais aussi de par le monde sur plein de ligues différentes, sur des matchs de Champions League, sur des matchs de Coupe du Monde FIFA. Donc, tout le savoir-faire du groupe Mediapro va être déployé en France pour la production de nos matchs de Ligue 1 pour lesquels nous allons assurer cette production. Et donc, effectivement, l'idée est d'apporter des innovations. On en a déjà identifié deux qui seront des images que vous avez citées. Le fait d'avoir des caméras qui sont disposées sur des câbles en altitude pour avoir une vision un petit peu globale du terrain. Et également, les caméras disposées derrière les buts qui donnent une vision très immersive de ce qui se passe sur le terrain. Ce sera d'autant plus important que le début de la saison va se réaliser à huis clos. Et donc, nous voulons vraiment assurer le meilleur spectacle et le meilleur rendu de ce qui se passe sur le terrain grâce à cette innovation technologique que va pouvoir apporter le groupe Média.
Juste une toute petite dernière question. En toute franchise, est-ce que le foot, ça vaut 1 milliard d'euros? Est-ce que ça vaut ces 800 millions que vous avez payés?
Écoutez, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la plus belle chaîne qui soit pour que les fans de foot puissent la regarder et être contents de payer leur abonnement à cette chaîne. On sera au rendez-vous au mois d'août.
Et ce sera à partir de quand? À partir du mois d'août?
À partir du mois d'août. On n'a pas encore la date exacte parce qu'on attend le calendrier définitif de la Ligue, mais on sera calé avec le début du championnat, la nouvelle saison.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous donc pour nous parler donc de cet accord important entre TF1 et Mediapro et donc de cette nouvelle chaîne Téléfoot. Julien Bergeau, merci d'avoir été avec nous. Merci Rémi. Merci Gilles. Dans un instant, tout autre chose, les manifestations de soutien à Adama Traoré avec l'avocat d'un des gendarmes. Merci à vous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, nous revenons sur la manifestation de soutien hier à Adama Traoré, une manifestation qui a rassemblé beaucoup de monde à Paris, à Marseille, dans plusieurs villes de France. Je suis en ligne avec Maître Rodolphe Bosselu, bonjour. Vous êtes avocat de deux des trois gendarmes qui ont participé à l'interpellation d'Adama Traoré. J'avais envie de vous entendre ce matin, d'avoir votre réaction, que vous nous expliquiez un petit peu le processus de cette affaire, parce qu'on voit que les manifestants, la sœur d'Adama Traoré réclame justice pour son frère. Or, la justice est en cours, si je ne m'abuse. Le procès n'a toujours pas eu lieu.
Et selon moi, il n'aura pas lieu pour une raison très simple, c'est que les gendarmes n'ont aucune responsabilité dans ce décès. Sauf qu'évidemment, cette vérité-là, qui est la vérité judiciaire, n'a pas l'air de plaire à Madame Assa Traoré, qui décide donc de lâcher, si j'ose dire, le champ judiciaire pour essayer d'occuper le champ médiatique en essayant de faire artificiellement un parallèle entre l'affaire George Floyd et l'affaire Adama Traoré. Ce qui est proprement scandaleux. Les deux situations sont évidemment aux antipodes et il n'y a pas évidemment de comparaison à faire, ni même d'invoquer une parenté entre les deux dossiers.
Alors vous, vous êtes l'avocat des gendarmes, donc on comprend votre point de vue. Eux, leur point de vue est qu'Adama Traoré a été victime de violences policières. Donc on rappelle qu'il y a, il y a eu quatre expertises, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises.
Trois
expertises judiciaires, et dont une a été rendue il y a quelques jours. Et deux jours après, la famille a rendu public... alors ce n'est pas une expertise cette fois-ci, c'est un médecin qui a donné un avis. Donc quelle est la différence?
Alors la différence, c'est que les expertises judiciaires, elles ont évidemment une force probante supérieure. Pourquoi? Parce qu'elles sont décidées par les juges d'instruction dans le cadre du respect du code de procédure pénale, qu'on missionne des experts qui sont agréés, qui prêtent serment et qui ont la possibilité d'accéder à la totalité du dossier d'information et d'instruction. D'accord ? Et surtout, toutes les parties, que ce soit les parties civiles, donc comme la famille Traoré, mais également la défense, comme moi-même et les autres avocats, avons également accès aux experts. On peut leur poser des questions, on peut demander à ce que soient adjoints d'autres experts, etc., etc. Donc c'est un processus contradictoire qui est très encadré, et évidemment le résultat a une autre force probante qu'un simple avis d'un médecin auto-qualifié d'indépendant, je mets des guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui a en 48 heures chrono, si j'ai bien compris. C'est absolument hallucinant.
Mais comment a-t-il pu travailler ce médecin?
Ah, mais je n'en sais rien.
Il n'a pas accès au dossier, a priori. Enfin,
dossier...
À quoi a-t-il accès?
Ben, le dossier est couvert par le secret.
Puisqu'il n'a pas pu examiner Adama Traoré, qui est décédé il y a 4 ans maintenant.
Ben, je suis heureux que, pour la première fois depuis ce déchaînement médiatique, me soit posée une question qui est quand même une question absolument centrale. Oui, comment a-t-il eu accès au dossier? À quoi a-t-il eu accès d'ailleurs? Est-ce qu'il a eu accès à la totalité du précédent rapport judiciaire du 29 mai? Moi, avocat, ne m'a été notifié que la conclusion. Je n'ai pas eu le rapport en lui-même. Je n'ai que la conclusion des experts. D'accord ? Mais lui, il est sans doute mieux informé que moi, alors qu'il n'est pas parti au procès, et il pond en 48 heures chrono un avis qui va dans le sens de ce qu'on veut entendre. Je me demande s'il n'aurait pas dû dire aussi que le décès d'Adama Traoré était identique à celui de M. Floyd, puisqu'on en est
famille sous-entend. C'est ce que sous-entend son avocat, c'est ce que sous-entendent les familles, les proches de la famille. L'avocat Ariel Imi hier qui parlait de plaquage ventral.
Mais il n'y a pas de plaquage ventral dans ce dossier. Ariel Imi qui n'est pas dans le dossier, il faudrait mieux de garder le silence et de ne pas parler à tort et à travers. Il n'y a pas de plaquage ventral. Il n'y a pas de plaquage ventral. Et je dis que l'interpellation qui est intervenue en une poignée de secondes. Ce n'est pas les 8 minutes et quelques d'un genou sur le cou de quelqu'un. Donc qu'on arrête artificiellement de faire le lien entre deux situations qui n'ont strictement rien à voir. Il y a évidemment une forme d'opportunisme du calendrier et de vouloir surfer sur l'émotion de la situation américaine pour redonner, entre guillemets, un petit peu de lustre à un dossier qui, sur le plan judiciaire, c'est vrai, n'est pas favorable à la thèse de la famille Traoré. Mais c'est la réalité. Il y a un déni du réel qui est stratosphérique.
Mais là, il y a un déni de justice. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aujourd'hui que les juges ne font pas leur boulot et sont
alors,
partiaux.
C'est pas un déni de justice. La justice, elle travaille. C'est une tentative de pression sur la justice. On fait une réunion sur le parvis du palais de justice. On indique d'ailleurs, si j'ai bien entendu, que la prochaine fois, cette fois on était gentil, on était à l'extérieur, la prochaine fois on le fera à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut prendre en otage la justice en lui disant « tant que vous ne rendrez pas la décision que nous souhaitons, nous ferons pression ?» C'est totalement intolérable.
Qui est ce médecin qui a été saisi?
Je ne sais pas.
Enfin, je ne demande pas son nom, mais on peut saisir qui on veut.
Ah ben, je ne sais pas. Je serais bien normal de vous le dire, puisque moi, je n'ai pas eu accès à cet avis médical, hein. Il a été brandi dans le cadre de la réunion. Je sais, il est indiqué qu'il aurait été versé au débat. Moi, j'ai rendez-vous pour consulter le dossier demain. Peut-être je le découvrirai. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Oui. Donc c'est vrai qu'on s'interroge quand même sur cette expertise d'un médecin qui n'a pas eu accès au corps ni au dossier a priori.
Oui, c'est alors moi je reprends juste vos propos. Il ne s'agit pas pour moi d'une expertise, mais je m'interroge sur cet avis médical qui me laisse, c'est le moins qu'on puisse dire, circonspect sur la façon dont il a été élaboré et les conditions un peu obscures dans lesquelles il s'inscrit.
Oui. Donc c'est quoi la suite maintenant?
Eh bien normalement, la suite judiciaire, ce serait que le dernier rapport d'expertise qui a été notifié au parti ouvre un délai pour éventuellement demander un complément d'expertise ou une contre-expertise. J'ai la faiblesse de penser que nous sommes déjà à 3 expertises qui sont toutes univoques. Je vois pas comment on repartirait sur une 4e expertise au motif que on a trouvé encore une fois en 48 heures chrono quelqu'un pour venir soutenir l'impossible. Mmh.
Vous avez été surpris par le soutien, il y a une vraie opération politique, ça c'est sûr derrière, mais il y avait quand même beaucoup de monde hier.
Ah mais c'est toute l'habileté est effectivement dans la récupération médiatique d'une affaire américaine qu'on essaye de plaquer au chausse-pied sur une affaire française qui n'a strictement rien à voir. Car encore une fois, il n'y a eu aucune violence de la part des gendarmes. C'est dit depuis le début, les gendarmes sont d'ailleurs pas mis en examen du chef de violence volontaire depuis 4 ans. Pensez bien que s'il y avait eu la moindre violence, il serait mis en examen depuis le premier jour de l'interpellation, c'est-à-dire le 19 juillet 2016. Donc il faut arrêter de laisser penser que la justice dysfonctionnerait, qu'il y aurait des protections au placé. Il faut arrêter le complotisme. On parle beaucoup de fake news et on raconte n'importe quoi dans une réunion publique et on voit qu'en jouant sur l'émotion, sur l'émotion suscitée par un autre dossier, on essaye une récupération. C'est absolument indigne.
Merci beaucoup Maître Bosselu d'avoir été avec nous et nous on va continuer évidemment de parler de cette manifestation hier. Cette manifestation était-elle justifiée? Vous pouvez voter sur le Twitter de Sud Radio. À tout de suite avec vous.